Kenneth Bertrams et Nicolas Coupin sont historiens. À l'initiative de l'extension de l'ULB, le 25 mai 2016, ils donnaient à Charleroi une conférence sur l'histoire de l'entreprise Solvay, qui devint la plus grande entreprise chimique au monde à la fin du 19e siècle. Mais derrière Solvay se cachent aussi deux noms. Ernest, l'inventeur-entrepreneur, et son frère cadet Alfred, qui fut l'artisan méconnu du développement industriel de l'entreprise Solvay. Kenneth Bertrams est historien et professeur de l'ULB. Nicolas Coupin est également historien et responsable du patrimoine historique du groupe Solvay. Retrouvez maintenant le hall d'honneur du bâtiment Graham à l'Université du Travail, Campus des Sciences, des Arts et des Métiers de Charleroi.
Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Ce lieu est évidemment tout à fait admirable. Pour la première fois, personnellement, je pénètre dans cet espace quasiment légendaire. Il est clair que pour nous, c'est un exercice à la fois périlleux et tout à fait évident de venir à Charleroi pour parler de Solvay, dans la mesure où je crois que certains dans la salle ont peut-être connu l'entreprise, de manière très, très charnelle, le moins qu'on puisse dire. Et là, sur le plan justement des connaissances et de l'expérience de travail, j'espère que nous aurons l'occasion de discuter et peut-être ce sera l'occasion pour certains d'entre vous de nous corriger, de préciser des éléments qui vous semblaient un petit peu peut-être trop rapides. Mais d'un autre côté, ça nous paraissait essentiel de venir ici pour toute une série de raisons qu'on va peut-être évoquer maintenant, dès le début, dès l'introduction. Essentiel dans la mesure où c'est une histoire qui est souvent un petit peu trop rapidement connue, ou en tout cas qui est associée à toute une série de mythologie ou peut-être de lieux communs, très clairement. On peut penser au fait que on a l'impression, quand on parle de Solvay, d'abord de s'adresser à un homme. Un autre élément, c'est le fait qu'évidemment on associe assez rapidement Solvay à une entreprise familiale. Très clairement, aujourd'hui encore, manifestement, Solvay compte comme les réussites, les success stories de l'industrie du capitalisme familial en Belgique, à juste titre, très certainement. Mais nous essaierons de montrer qu'il n'y a pas que la famille, quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'on parlera d'Alfred, mais il n'y a pas que la famille, et vous verrez que ceci, justement, nous permet assez rapidement de porter notre regard sur Charleroi. Le milieu, justement, industriel de Charleroi, le milieu des entrepreneurs de Charleroi, qui est un milieu essentiel pour la réussite de l'entreprise. Un autre élément, peut-être, troisièmement, qui est directement associé à l'histoire de Solvay, c'est le fait qu'il s'agit d'une entreprise issue de la science. Et très clairement, quand on voit le rôle d'Ernest Solvay, de sa découverte ou redécouverte, on reviendra un petit peu là-dessus du processus de production de la soude par l'ammoniac, on voit que c'est une redécouverte, mais qu'il y a derrière, évidemment, tout un travail industriel énorme. Donc oui, la science joue un rôle. L'entreprise actuellement, bien entendu, insiste beaucoup sur la portée scientifique, l'innovation technologique. Mais il ne faut pas oublier, et peut-être faut mettre l'accent davantage sur la dimension industrielle, laborieuse, le travail des ouvriers, le travail de fond qui est essentiel pour comprendre le parcours de cette entreprise. Et donc, quand on prend la première donnée et la deux et la troisième aussi, on se rend compte qu'il y a un lieu. Il y a un lieu qui est essentiel pour l'histoire de Solvay, peut-être moins essentiel pour, on va dire, le présent, mais on a tendance à un peu l'oublier, évidemment, c'est Charleroi. Et clairement, dans Charleroi, il y a toute une configuration d'entrepreneurs qui ont joué un rôle et qui ont assisté Ernest Alfred Solvay pour faire de ce projet, qui est tout à fait anecdotique au départ, une entreprise qui va devenir peut-être la plus grande entreprise chimique à la veille de la Première Guerre mondiale. Et donc là, il nous paraissait peut-être évident que Charleroi soit nommé et devienne, on pourrait dire, la star du jour, la star de notre exposé aujourd'hui, cette ville dont on a un petit peu oublié, finalement, l'apport, et peut-être que l'entreprise elle-même, bon, j'espère qu'ils n'écouteront pas le podcast, a peut-être un petit peu oublié tout ce qu'elle doit à Charleroi. Et je crois qu'en tant qu'historien, Nicolas et moi devons peut-être rappeler à quelques-uns l'importance de cette ville, l'importance de ce milieu industriel dans ce qu'est Solvay aujourd'hui. Et donc, il est évident pour nous, oui, qu'au centre de la toile Solvay, de cette multinationale qui va se construire progressivement à partir des années 1870, eh bien, on retrouve Charleroi et surtout l'usine de Couillet. On va donc beaucoup parler de Couillet aujourd'hui. Alors, dernier élément, peut-être un peu moins, folklorique, c'est qu'on associe aussi quelquefois, quand on fait l'équation Solvay-Charleroi, eh bien, au fait que, en tout cas, certaines langues estiment qu'il y avait là un déclin qui était annoncé depuis longtemps, c'est-à-dire le fait que l'usine de Couillet ne correspondait pas aux normes ou aux projets de Solvay, ou entre autre chose. Imaginons peut-être le fait de dire que la Wallonie elle-même était finalement une terre peu portée à partir des années 50 sur l'avenir, la modernité, et que finalement il y a eu une sinistrose totale qui a pris dans sa grande vague l'usine de Couillet. Nous allons y revenir aussi parce que souvent quand on fait de l'histoire, on s'attarde sur les belles années, hein, les grandes époques fastes, on va en parler, mais il est important également de mentionner, je crois surtout ici avec vous et pour certains qui l'ont connu, l'histoire récente et notamment la fermeture du site en 1993 et peut-être vous montrer, nous allons essayer de montrer en tout cas, qu'il n'y avait pas là, comme je l'ai écrit ici, un déclin annoncé. Il n'y a pas de déclin annoncé, il y avait très clairement une volonté, je crois, manifeste, on en parlera, de faire de Couillet un pôle industriel, et certainement il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits, mais il n'y a pas eu de déclin de région qui ont précipité Couillet. Voilà, on va peut-être en parler un tout petit peu. Alors, première chose, quand on est dans ce lieu, on doit insister, me semble-t-il, sur le rôle, d'une part, des relations entre ce qu'on a appelé en Belgique, vous le savez, la révolution industrielle, qui s'amorce au début du XIXe siècle. On sait qu'elle est née plus ou moins en Angleterre, même si des historiens contestent le fait qu'il y ait eu l'Angleterre en premier lieu uniquement, que la Chine était bien partie. Enfin, voilà, je ne vais pas parler de tout ça. On se croirait un cours d'histoire économique. Mais surtout le fait que... oui, la révolution industrielle a joué un rôle essentiel dans ces régions, très clairement, vous le savez tous, et à partir de la moitié du XIXe siècle, s'amorce très lentement de nouvelles façons de faire, de nouvelles manières de faire et des innovations qui vont mettre en place une seconde révolution industrielle. Cette seconde révolution industrielle, quand on ouvre des manuels d'histoire, elle est assez bien évoquée. Hein. On estime qu'elle naît dans les années 1870, 1880. De quoi parle-t-on ? Ben, de l'électricité, et plus uniquement de la machine à vapeur. On parle aussi justement de la chimie, mais pas forcément justement de la chimie minérale, puisque la soude, c'est plutôt la chimie minérale. La chimie organique est au cœur même de cette seconde révolution industrielle. Alors la question qu'on peut se poser, la suivante, elle est très simple. Solvay, c'est un homme plutôt de la première révolution industrielle ou de la seconde révolution industrielle ? Et quand je dis un homme, est-ce qu'il s'agit d'un entrepreneur qui, finalement, tout jeune, va avoir eu des idées tout seul dans son coin, hein, une sorte de Fiat Lux, comme ça ? Ou alors, c'est un homme de son temps qui va s'inspirer, qui va lire, qui va essayer d'apprendre et de créer lui-même quelque chose qui est dans l'air du temps. Alors, c'est un peu tout ça. On se rend compte surtout qu'Ernest Solvay, eh bien, n'est peut-être pas l'autodidacte qu'on a souvent entendu à son propos. C'est quelqu'un qui s'entoure, peut-être pas socialement au début, hein, quand il est très jeune, Nicolas en reparlera, mais quand il est très jeune, il a une bibliothèque, il a une passion de lecture, et notamment, et c'est très important pour notre propos ce soir, de toute une série de lectures qui existent toujours, qui pourraient être l'équivalent d'Internet finalement aujourd'hui, mais qu'on pourrait qualifier ça de toute une lecture vulgarisée des connaissances de l'industrie, de l'économie. Et il se passionne pour ces lectures. Et donc voilà quelqu'un qui, certes, n'a pas fait d'études supérieures, mais qui non seulement aime lire, mais aime pratiquer. Il aime manipuler, et c'est justement, comme vous le savez, en manipulant hein, qu'il reviendra sur cette découverte. Et comme il a beaucoup lu, mais n'a peut-être pas suffisamment lu, il croira qu'il a été le premier à découvrir ce procédé de soude à l'ammoniac, alors qu'il y a eu d'autres tentatives, ce qui ne va pas le décourager. Mais mon propos ici est un peu différent, c'est de montrer que Ernest Solvay doit beaucoup à un milieu général. Ce milieu, c'est le milieu du borinage. Même si lui-même n'est pas de cette région-là, il y a une effervescence industrielle qui porte quand même toute une série de jeunes à essayer des choses, à tenter toute une série d'innovations. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a cette effervescence où on peut dire qu'on est entre la première et la seconde révolution industrielle. Parce qu'en grande partie, finalement, Ernest Solvay, hein, je vous rappelle que le premier brevet qu'Ernest Solvay prend en 1861, il n'a que 23 ans. Et donc à 23 ans, Ernest Solvay, ben, il est au courant de pas grand-chose, et il va s'amuser à tester et à bricoler. Et le bricolage, ça peut paraître anodin, mais c'est la matrice, la manière de faire des entrepreneurs, aussi bien de la révolution scientifique, de la révolution industrielle des années 1800, que celle qui arrive un peu plus tard. Et d'ailleurs, dans une grande mesure, on pourrait presque dire que tous les entrepreneurs de la Silicon Valley des années 1950, 60 et au-delà vont bricoler dans leur garage à partir de pas grand-chose. Donc le bricolage, c'est vraiment au cœur même d'un processus d'innovation, de découverte, de répétition, de mimétisme. Et c'est très important. Après, il y a des niveaux de bricolage différents, on est bien d'accord, mais voilà, c'est important. À côté, vous voyez une photo qui nous a semblé importante. C'est montrer que derrière ce passé d'enthousiasme, de triomphe, de l'âge du savoir, de l'innovation, de la réalisation industrielle, il y a également une misère sociale. Le fait que finalement, cette effervescence industrielle n'est pas forcément partagée par tous. Et clairement, il va y avoir des changements entre la première moitié du 19e et surtout la seconde moitié du 19e. Quelle est cette histoire sociale? Elle est très importante, même si elle n'est pas au cœur de notre propos. C'est montrer que c'est l'histoire lente de l'organisation des travailleurs, tout simplement, et aussi de la prise de conscience tardive, peut-être, du patronat. Nous allons peut-être avoir le temps d'insister sur quelques éléments pionniers, des réalisations qui font que pour Charleroi et à Charleroi, on a souvent l'impression, je crois, en effet, que l'entreprise Solvay est une entreprise sociale où on gagnait bien sa vie, où on avait en effet une carrière importante et on va peut-être resituer ça. Alors, Nicolas a eu l'idée, je crois, très bonne d'associer, dans le cadre de cet exposé, un petit film qui va vous expliquer en 3 minutes à peine les grandes étapes, on va dire, classiques, traditionnelles du groupe, ce qui nous permettra peut-être de revenir sur quelques éléments, mais je vous demande de bien regarder, parce que, attention, le clip est en langue anglaise, vous allez voir, c'est fait avec panache, et on a mis quand même pas mal d'efforts pour ce clip.
In the mid-19th century, Belgium is the world's second most industrialized country. In the emerging chemical industry, opportunities are still numerous. The destiny of two bold young entrepreneurs is about to turn. Ernest and Alfred Solvay, barely in their 20s, take a wild gamble to develop a new method of manufacturing soda ash, likely to revolutionize the chemical industry.
Mon arrière-grand-père, Ernest Solvay, n'invente pas le procédé pour faire du carbonate de soude. Il avait cru l'inventer, mais en fait, le procédé existait, mais il n'avait jamais pu être industrialisé.
The demand for soda ash is exploding. The substance is essential in the manufacturing of glass, soap, and textiles. The Solvay brothers recognize the great opportunity in reducing sales costs.
Ils en ont bavé, ils sont passés à côté de la faillite plusieurs fois. Pendant des années, ils ont dû travailler dans des conditions extrêmement difficiles, les mains dans le cambouis.
This tale of heroic beginnings gives Ernest Solvay the image of an authentic self-made man. But an inventor cannot revolutionize an entire industry alone. Alongside the visionary Ernest and the very practical Alfred is a network of personalities who play a key role in launching the company and in creating its first plant at Couillet. For 6 years, the Sauvé brothers are burdened by the weight of their debts. In 1869, they pull off a decisive innovation, the vertical column that boosts performance. It is the key to their technical superiority. The manufacturing secrets and the knowledge accumulated are treasures that it is now crucial to protect. By 1870, the bad times are over. Although still financially fragile, Sauvé begins to contemplate an international future. To prevent competitors from creating a similar process, there is an urgent need for Sauvé itself to set it up in all the industrialized countries. There is no model from which Sauvé can draw inspiration. The first steps are delicate, and the company fumbles. In France and Germany, building self-owned factories is expensive. Very quickly, Sauvé turns to local entrepreneurs who help to speed up its development. Within a few years' time, Sauvé starts activities in Great Britain, Russia, the United States, and Austria-Hungary. Sauvé is a newcomer in an industry mainly dominated by British producers using the old Leblanc process. Will Sauvé stand firm in front of its many competitors?
Voilà, alors cette vidéo retrace très rapidement, en 3 minutes, la plupart des éléments qui font le succès de Sauvé dans les 25 premières années et les particularités de l'entreprise Sauvé. Je vais très rapidement revenir dessus, tout simplement pour préciser effectivement que Sauvé base son succès, qui est quand même assez exceptionnel pour l'époque, sur un procédé chimique unique, qui est le procédé de fabrication du carbonate de soude à l'aide de l'ammoniac. Alors, le carbonate de soude, qu'on appelle plus communément la soude, est un produit finalement pas forcément connu du grand public, mais c'est un produit essentiel dans le processus d'industrialisation de nos pays. C'est un produit, comme vous le voyez ici sur cette brochure de l'exposition universelle de Paris, fonctionne sur base de 4 matières premières principales, le charbon, l'ammoniac, le calcaire et le sel étant très important, et qui offre une série de débouchés, de dérivés dans une multitude d'applications. Vous les voyez ici défiler sous vos yeux. Certains économistes de l'époque, d'ailleurs, calculent la production en soude d'un pays pour évaluer son niveau de développement industriel. Donc c'est vous dire à quel point ce produit unique et la maîtrise de sa production va être essentielle. Et ça explique également pourquoi Sauvé, en se basant sur ce produit unique, va avoir un succès économique aussi important. Alors, un autre point très important de l'histoire Sauvé, en tout cas en ses débuts, c'est que très vite l'entreprise s'internationalise. Ce procédé effectivement est mis au point ici en Belgique, mais il y a de grands concurrents, notamment dans les pays voisins, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui observent cela de près et qui sont très rapidement sur la balle et qui essayent donc de copier le procédé, voire d'en trouver un meilleur. Et donc la réponse de Sauvé, ça va être de prendre des brevets très rapidement dans tous les pays industrialisés et d'aller le plus vite possible construire des usines sur place. Alors la grande difficulté évidemment pour cette petite entreprise qui est née, comme disait Kenneth, presque dans un garage, c'est de trouver des financements. Et c'est là que Charleroi et le milieu de Charleroi va intervenir en permettant aux frères Sauvé de se financer et de développer un modèle d'expansion tout à fait original. Alors, entreprise multinationale précoce, entreprise familiale aussi. Hein, on parle toujours aujourd'hui d'une société à caractère familial. Qui sont les Sauvé, finalement? Est-ce que ce sont des industriels, des financiers? Ben non, ce sont plutôt des notables de province. En fait, l'aventure Sauvé va démarrer sur un axe qui relie Bruxelles à Charleroi. Et les Sauvé sont implantés entre les deux, dans la campagne brabançonne, à Rebec. Les parents possède un pensionnat qui est assez réputé dans la région. Et puis le père, Alexandre, à la faveur du développement industriel du pays, va commencer des activités dans le domaine proto-industriel. Il va devenir maître de carrière, les fameuses pierres du Hainaut. Il va établir un petit atelier de raffinage du sel. C'est là qu'Ernest Solvay sera mis en contact avec cette matière qui permettra tant de développement par la suite. Ernest Solvay ne vient pas d'un milieu modeste, c'est un milieu bourgeois, mais ce n'est pas non plus un milieu qui est très, très connecté au milieu scientifique, au milieu industriel, au milieu financier belge. Alors, dans les premiers temps, toute l'aventure se fait au niveau purement familial. Ernest Solvay, qui doit arrêter ses études assez rapidement suite à une maladie de jeunesse, démarre rapidement une carrière professionnelle sans aucun diplôme. De là viendra évidemment ce caractère autodidacte qu'on lui connaît. Et il débute sa carrière professionnelle chez son oncle à Bruxelles, à Saint-Josse. Son oncle qui est directeur d'une usine à gaz et qui va être un véritable terrain de jeu pour Ernest Solvay, qui a à peine une vingtaine d'années. Il va avoir la responsabilité de l'atelier et du laboratoire, et il va pouvoir manipuler une série de substances, dont l'ammoniac, qui serait évidemment crucial dans le procédé de la soude à l'ammoniac. Il va d'ailleurs inventer une série et développer une série d'autres procédés plus mineurs auparavant. Alors ce premier brevet, il date de 1861. Comme l'expliquait Kenneth, ce premier brevet est en fait nul et non avenu, tout simplement parce que la réaction qu'il décrit est déjà connue depuis longtemps dans la littérature, depuis 50 ans en fait. Ce qui s'est révélé impossible jusque-là, c'est d'industrialiser le procédé. Pourquoi ? Parce que la fabrication de soude à l'ammoniac nécessite un procédé continu, ce qui est encore inexistant dans la chimie de l'époque, nécessite vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui du génie industriel, donc énormément de capacités techniques. Et ceux qui s'y sont essayés ont tous échoué. Et ça, Ernest Solvay ne le sait pas au départ. C'est la raison peut-être pour laquelle il va persévérer. Alors, la première étape est d'établir une usine pilote, un modèle réduit du futur procédé à Schaerbeek. Donc quand on dit que Charleroi est le berceau de l'entreprise, en réalité c'est à la fois Charleroi et Bruxelles, puisque les toutes premières expérimentations se font à Saint-Josse, à Schaerbeek, d'ailleurs en pleine ville. Ernest, son frère Alfred, et l'ami d'enfance à Charleroi, qui lui a aussi un peu disparu des écrans radars par la suite, s'installent en plein milieu de la ville, manipulent de l'ammoniac, au grand détriment d'ailleurs du voisinage, mais enfin parviennent, avec l'argent du père Solvay, à démontrer que ce procédé pourrait fonctionner. Et c'est là, à ce moment-là, que le milieu d'affaires carolorégien intervient. La première idée d'Ernest Solvay, c'est de vendre son procédé à une entreprise chimique. Il y en a notamment du côté de Floref, une entreprise qui utilise l'ancien procédé Leblanc, qui est un procédé beaucoup moins élégant, beaucoup plus polluant, beaucoup plus énergivore. Le problème est que le brevet d'Ernest Solvay est nul. Et donc, il va devoir s'entourer d'une série de personnes plus expérimentées. Alors, vous voyez ici trois personnages très importants dans l'histoire de Solvay. Celui du milieu, Guillaume Nélis, qui lui est plutôt de la région de Wavre. C'est le médecin de famille des Solvay. C'est un industriel du papier. C'est un homme qui est déjà beaucoup plus âgé que les frères Solvay à l'époque. Et c'est surtout l'un des seuls points d'accès des frères Solvay à un réseau plus large. Guillaume Nélis est député à la Chambre des représentants. Et c'est lui qui va véritablement patronner les frères, va les conseiller et va les mettre en contact avec des personnages tout aussi importants. Eudore Pirmé, qui est sur la droite de à votre gauche. Eudore Pirmé est à peine plus âgé que les frères Solvay. C'est un véritable homme d'affaires, c'est un juriste, c'est quelqu'un de brillant qui aura une carrière politique de premier plan. On lui propose d'ailleurs, l'année même où Solvay est créé, de former le gouvernement. Léopold Ier lui demande de former un gouvernement. Il deviendra aussi ministre de l'Intérieur. C'est vraiment quelqu'un qui va entourer les frères, qui va les aider au niveau juridique, mais aussi au niveau même technique et au niveau financier. Il va en effet croire dans ce procédé, Il va mobiliser sa propre famille, son père, sa tante, et puis Valentin Lambert, son beau-père, qui est un verrier de la région de Charleroi, pour financer les frères Solvay. Donc au départ, cette société familiale Solvay est en fait très minoritairement détenue par les Solvay et très majoritairement détenue par les familles de ces commanditaires. C'est une des raisons pour laquelle la première usine est effectivement implantée ici à Charleroi, à Couillet plus précisément. Pourquoi ? Parce que c'est le bastion du verre en Belgique. Pour fabriquer du verre, il faut de la soude en quantité importante. Les maîtres verriers, qui sont les futurs commanditaires, voient un intérêt direct, évidemment, à maîtriser ce procédé qui a l'air prometteur. Et donc l'usine, qui avait été aussi planifiée un moment dans le Borinage, est finalement implantée ici, à Charleroi. Donc on a, ici à Charleroi, toute une série d'éléments centraux. On a l'usine, qui sera le berceau du groupe. On a les financiers, on a le marché, et on a la plupart des matières premières, charbon, calcaire, sauf une qui est très importante, qui est le sel. Couillet sera la seule usine de tout le groupe à être distante du sel. Et ça, on le verra par la suite, ça va poser un problème non négligeable pour la viabilité du site à long terme. Alors, cette usine, évidemment, elle ne réussit pas du premier coup. Le gros défi, évidemment, et là je me réfère de nouveau à ce que Kenneth disait sur le bricolage, hein, on n'est pas du tout dans un laboratoire hyper moderne, on est plutôt dans une espèce d'usine fumante et pleine de graisse et tout ce qu'on peut imaginer, dans laquelle les frères Solvay manquent d'ailleurs de s'asphyxier un moment, dans laquelle il y a à peine 3 ou 4 ouvriers qui ne sont pas du tout formés, et dans laquelle les choses se font par essai-erreur, vraiment du bricolage, et les résultats ne sont d'ailleurs pas du tout à la hauteur, c'est-à-dire que l'usine manque d'exploser à un moment donné, elle manque de fermer, elle tombe quasiment en faillite virtuelle, et donc il faut une petite dizaine d'années avant que le procédé Solvay, qui est si complexe à maîtriser avec les techniques de l'époque, soit mis sur pied. Donc la réponse viendra d'une innovation qui est vraiment un tournant, qui est la colonne verticale, qu'on appelle la colonne Solvay, qui va apporter vraiment une différence fondamentale par rapport aux tentatives antérieures. Cette colonne date de 1869, donc on est déjà 6 ans après la création. Et cette colonne est en fait une invention collective. Hein. C'est la colonne d'Ernest Solvay, mais en réalité... Alfred, en tout cas, qui lui est sur le terrain, a au moins autant contribué à la mettre en place. Et il y a assez peu de documentation qui subsiste sur cette invention. On pense même que les commanditaires, qui sont aussi des industriels, ont aidé les frères Solvay à mettre au point ce dispositif particulier. Donc voilà finalement cette histoire qui prend déjà du relief, qui est déjà un peu plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer au départ. Et ce qu'on veut montrer ici, c'est que Ernest Solvay n'est évidemment pas seul. Son frère est un petit peu son ombre dans tous les premiers pas. On a un milieu familial qui se met en place, hein, on l'a montré, qui fait une connexion avec les milieux financiers et industriels de Charleroi. Et puis il y aura une troisième étape dont on parlera moins aujourd'hui, qui est l'étape de l'internationalisation, pour laquelle Solvay, qui n'a pas énormément de moyens financiers au départ, va se tourner vers des ingénieurs, des financiers, des commerciaux étrangers qui vont rapidement permettre à Solvay de s'implanter dans toute une série de pays en allant de la Russie à l'Est jusqu'au fin fond du Michigan aux États-Unis à l'Ouest, et ce en moins de 15-20 ans. Donc voilà un petit peu le schéma. Alors un point aussi sur lequel on trouvait important de revenir, c'était le rôle exact d'Alfred Solvay. Alfred Solvay meurt beaucoup plus jeune que son frère, c'est le frère cadet, hein, il a 2 ans de moins. C'est quelqu'un d'assez modeste, hein, qui ne cherche pas la lumière, qui ne cherche pas les honneurs. Ernest Solvay a une liste assez impressionnante de décorations, de reconnaissances en tout genre, ce qui n'est pas tellement le cas d'Alfred. Et pourtant, on lui doit des éléments essentiel de la réussite du groupe. Tout d'abord, c'est lui qui est directeur de l'usine de Couillet durant les 15 premières années. Ernest Solvay, lui, en tout cas durant les 2 premières années, qui sont vraiment cruciales dans le lancement, est toujours employé chez son oncle à Bruxelles. Donc, Alfred est sur place, teste, imagine. Les deux frères correspondent tous les jours. On a d'ailleurs gardé trace de cette correspondance très précieuse. Et on peut donc imaginer très clairement qu'Alfred, en étant sur le terrain, en ayant les mains dans le cambouis, participe grandement au développement du procédé. D'autre part, comme il est présent sur le site, il a un contact direct avec la main-d'œuvre, avec les ouvriers, et c'est lui qui va lancer, en fait, collaborativement, évidemment, les premières initiatives sociales. Au moment de son décès, on aura des représentants des ouvriers qui vont venir faire des discours très poignants sur, sur le caractère très social, très humain d'Alfred Solvay. Et donc là aussi, effectivement, Ernest Solvay est quelqu'un qui va s'impliquer très fort dans une réflexion globale sur l'organisation des sociétés. Hein, c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant progressiste, même proche des milieux socialistes et libéraux progressistes. Mais Alfred, lui, sur le terrain, met en place certaines initiatives qui feront aussi que Solvay sera très largement reconnu comme une entreprise avec une composante sociale. Alfred quitte évidemment à un moment donné Couillé pour aller retourner au siège central de Bruxelles, 1879. Et là, il va passer à une deuxième étape de sa carrière. Il va fréquemment, continuellement, parcourir le monde, parcourir les usines, parcourir les nouveaux pays à la recherche de gisements de sel, à la recherche de marchés. Il va mener des études plutôt de nature marketing, on dirait aujourd'hui, commerciale, puisque c'est un peu sa formation de base. Ernest Solvay n'est pas quelqu'un qui voyage énormément. C'est quelqu'un qui préfère se retirer pour réfléchir et pour superviser. C'est quelqu'un qui est clairement visionnaire. Alfred, lui, aime le terrain. Il parcourt le monde. Et donc, il va avoir aussi une connaissance très fine des usines, des marchés. Et ce qu'on lui doit surtout, en fait, pour terminer là-dessus, c'est peut-être le plus important, c'est l'organisation de la politique commerciale de Solvay. En fait, le succès de Solvay réside sur deux piliers principaux, l'excellence technique dans la production de la soude et l'excellence commerciale, qui est assez fine et qui est assez originale pour l'époque. Quelle est l'idée principale de cette politique commerciale? Je vous ai dit, il y a des soudiers qui sont déjà en place, les soudiers Leblanc. Ils sont nombreux, ils sont relativement puissants, même si leur procédé est moins bon. Et donc, deux choix se posent à Solvay, soit attaquer les marchés de manière agressive, avec des guerres des prix, essayer d'éliminer très rapidement tous les concurrents qui utilisent l'ancien procédé, mais en courant le risque alors de les voir se reconvertir dans de nouvelles technologies, beaucoup plus dangereuses, ou alors, au contraire, arriver de manière plus douce, favoriser plutôt les profits de long terme et la prévisibilité des résultats et amener les concurrents, finalement, à conclure des ententes, à courber les chines, mais lentement, et finalement à les maintenir sur le marché et les pousser lentement vers la sortie. Par contre, en se réservant, Solvay, les augmentations futures, puisque la demande en soude augmente partout. C'est plutôt cette politique-là qui sera menée, avec des négociations commerciales très dures, évidemment, avec des grandes entreprises chimiques comme Saint-Gobain en France, comme BASF en Allemagne. Et là, Alfred Solvay est encore une fois au premier rang. Donc voilà un petit peu une manière de remettre ce jeune frère Solvay sur le devant de la scène. Et puis, comme je vous le disais, Alfred Solvay meurt jeune, en 1894. Alors qu'Ernest, lui, aura encore une vie très, très intense et très riche par la suite, avec beaucoup de réalisations en dehors de l'entreprise, dans le monde de la science. C'est effectivement un coup difficile pour l'entreprise, d'autant qu'il se dit, en fait, qu'Alfred Solvay est mort presque de surmenage. Dans les années 1880, Ernest avait quitté la gestion courante de l'entreprise pour déjà se consacrer à d'autres initiatives plutôt de nature scientifique. Et Alfred était resté avec tout ce poids de la gestion quotidienne. Et voilà, Ernest a l'impression, en tout cas, que son frère est mort de ce poids, de ce surmenage qu'il faisait travailler en permanence. Et donc, à Couillet, ici, on érige un mémorial à Alfred Solvay, qui est une œuvre d'ailleurs de Victor Horta, qui est encore un jeune architecte à l'époque. Victor Horta, qui est un architecte qui a l'habitude de travailler avec la famille Solvay, puisque à Bruxelles, la même année d'ailleurs que ce mémorial, est construite un merveilleux hôtel de maître pour le fils d'Ernest Solvay, Armand, qui est considéré comme l'une des œuvres majeures de l'architecte. Donc voilà un petit peu comment ce que je voulais vous dire. Maintenant, je pense que Kenneth va revenir sur un petit arrêt sur image, finalement, fin du 19e siècle, début 20e. Qu'est-ce que Couillet, qu'est-ce que Solvay à Charleroi à cette époque?
Absolument. Alors, bon, le temps des débuts, on a compris, est passé. Hein, l'œuvre des pionniers a fonctionné. Il y avait une audace, une persévérance, ça a fonctionné. Mais il y a eu malheureusement le décès d'Alfred Solvay qui a complètement choqué Ernest. Cela dit, voilà, si la famille est meurtrie, l'entreprise, elle, prospère. Nous avons affaire à une entreprise qui est déjà fortement multinationale, implantée un peu partout, on vous l'a dit, avec des usines directement gérées de Bruxelles, en Belgique, en France, en Italie, après en Espagne, et puis un système plutôt de prise de participation plus complexe aux États-Unis, d'une certaine manière, mais directement aussi en Allemagne. Vous voyez, c'est en fait assez intéressant de voir que ce n'est pas linéaire. On n'appuie pas tout sur un bouton en décidant de Bruxelles. En fonction du terrain, on s'adapte. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qu'il faut retenir dans l'esprit Solvay. Alors oui, arrêt sur image, Solvay à Charleroi, à ce moment-là. Alors, où en est-on ? On en est finalement dans une époque en pleine expansion. Vous voyez là sur l'image la construction d'un nouveau hall, parce que tout simplement, il est évident pour Solvay que l'entreprise de Couillet, c'est l'entreprise évidemment d'avenir, très très importante, qui est la première entreprise, et très, très symboliquement, il est essentiel de persévérer et de montrer que l'entreprise, elle, va poursuivre son fonctionnement. Pour donner quelques indications techniques, hein, on ne va pas vous abreuver de statistiques, mais c'est important quand même. Au début du XXe siècle, on produit à Couillet 30 000 tonnes de soude par an. Alors, est-ce que c'est peu, beaucoup, c'est pas. Alors, l'idée est de dire clairement que même à ce moment-là, on est en 1900, 1905, ce n'est pas une grande usine, elle n'a pas une grande capacité en termes de production. Elle est plutôt au niveau des petites usines, hein, en comparaison du côté de Dombasle, qui est la grande usine en Lorraine, c'est 5 fois plus de production, hein, de soude, donc il faut bien imaginer. Mais voilà, du côté de Couillet, on fonctionne bien et on essaye aussi de nouvelles choses. Hein, donc, même si on va insister là-dessus, elle sera uniquement destinée à la production de soude, hein, cette monoproduction Solvay, eh bien, il y a quand même des tentatives de fonctionner avec d'autres possibilités. Nicolas l'a dit, il est essentiel pour le procédé Solvay de fonctionner avec du charbon. Bon, on est dans le borinage, je crois que le charbon, il n'y a pas de gros soucis à cet égard-là. Le calcaire, d'où vient-il ? Eh bien, de Mont-sur-Marchienne et de l'Overval, avec un câble aérien qui, oui, va acheminer progressivement le calcaire dans des petits wagonnets et un calcaire qui va être lavé, concassé, de la carrière jusqu'au four à chaud de l'usine. Une autre image qui montre aussi à droite, à votre droite, que à Couillet, on dispose aussi d'une flotte fluviale, mais oui, qui permet absolument d'acheminer la soude assez précocement. Et évidemment, on a tendance un petit peu à l'oublier, hein, que les canaux, le canal est une force énorme de la région et le poumon économique de la région. Et Solvay ne s'en fait pas défaut et évidemment travaille énormément là-dessus. Alors, pour la petite anecdote, l'image à gauche, je ne sais pas si vous savez à quoi ça fait référence. Moi-même, je ne savais pas, je n'avais pas compris. Pardon ? Eh bien, il s'agit là, figurez-vous, du vestiaire, tout simplement. Absolument, absolument. Ben voilà, vous savez tout. Ben moi, je suis un novice. Pour vous, c'est évident, pas pour moi. Eh bien, voilà, on posait tout simplement ses vestes et puis on les acheminait là-dedans dans le hall d'entrée. Absolument, voilà. Mais comme quoi, c'est une image assez intéressante de voir cette idée-là. Nicolas l'a dit, et c'est important, le sel. Le sel vient des mines de Bort, près de Cologne. Donc on achemine le sel d'Allemagne. Il venait avant, dans les premières décennies, de l'usine de Lorraine, de Dombasle tout simplement, enfin la région de Dombasle. Et à partir du début du XXe siècle, on importe du sel d'Allemagne. Retenez ça pour la suite, parce que ce sera important pour la période de guerre, évidemment. Retenez ça. Et puis, important de le mentionner aussi, l'année qui suit immédiatement le décès d'Alfred Solvay, en 1894, donc en 1895, on achète le domaine de Parenville pour notamment la mise en place de l'établissement, la résidence du directeur, et puis pour toute une série d'autres dispositions qui seront importantes par la suite. Mais donc c'est en 1895 qu'on achète le domaine de Parenville. Alors il serait difficile de parler uniquement de Couillet si on ne parle pas un tout petit peu de ce qu'on pourrait qualifier la petite sœur, hein, qui est l'usine de Jemeppe-sur-Sambre. Alors ça peut paraître très éloignée, elle n'est en fait qu'à 20 km à vol d'oiseau de Couillet. Mais il s'agit de deux usines radicalement différentes. Alors pourquoi ? Parce que autant Couillet, tout simplement, la première usine, l'usine des essais, du labeur, des difficultés, des épreuves, autant Jemeppe, qui arrive beaucoup plus tard dans le parcours, est une usine qui fonctionne dans une entreprise qui a plein rendement, qui est déjà installée un peu partout dans le monde, je l'ai dit, mais qui est surtout une usine qui va avoir pour destinée la production de soude caustique via l'électrolyse. Et en effet, c'est le système d'électrolyse qui est fondamental dans le procédé Solvay aussi. À partir des années 1890, on va tester une autre méthode aussi, qui est une méthode fondamentale avec des échanges de brevets et qui vont être très important pour la politique industrielle de Solvay, qui va tester en Belgique, à Jemeppe-sur-Sambre, la production de soude par électrolyse avec des cellules de mercure. Donc c'est très important de voir que là, de nouveau, on va tabler sur la région, mais pas vraiment le Borinage, là on va davantage dans le Namurois. Et c'est vrai que ça va susciter deux environnements différents. Hein. Il est clair, pour ceux qui connaissent quand même l'histoire sociale de Solvay, il y a ceux de Couillet et il y a ceux de Jemeppe. C'est très différent, c'est deux cultures de travail fondamentalement distinctes, pas uniquement parce qu'on est dans le Borinage d'un côté et dans le Namurois de l'autre, mais aussi pour ça. Mais c'est deux cultures de travail qui sont vraiment différentes. Et Solvay, très clairement, ne va pas avoir la même gestion de ces deux usines. On sait qu'il y a une différence énorme. Ce qui me permet peut-être d'insister sur la politique sociale du groupe. Je l'ai dit au tout début, pour beaucoup de gens de la région, Solvay, ça signifie progrès social, un certain confort et une vraie politique sociale. Et je crois que c'est manifeste. Hein. Il n'y a pas de distinction particulière de Couillet par rapport à d'autres. Mais ce qui est intéressant de constater, et c'est grâce notamment aux recherches menées par Nicolas, on a pu constater que la disposition multinationale de Solvay a fait que justement on a pu importer à Solvay toute une série d'innovations sociales qui sinon n'auraient pas vu le jour en Belgique avant 30 ans ou 40 ans plus tard. Donc c'est vraiment le fait d'avoir pu finalement regarder ce qui se fait ailleurs pour essayer de montrer que Couillet pouvait également profiter, par exemple, de toute une série d'avancées sociales. Alors j'ai quelques exemples, notamment à vous proposer, si je retrouve ma page. Voilà, par exemple, dès 1877, finalement, une caisse d'épargne est mise en place. C'est un peu plus précoce que d'autres usines alentours. Mais en revanche, Solvay, l'usine de Couillet, va s'inspirer d'expériences de la région de Borinage pour faire la même chose, voire surpasser, notamment en 1880, la caisse de retraite pour employés, et en 1889, avec une caisse de retraite pour ouvriers. Il s'agit là de deux réalisations sociales qui avaient été tentées dans la région, et on en a eu vent à Solvay, on a voulu imiter, on a voulu reproduire ces innovations sociales et montrer que Solvay n'était pas en retard à ce niveau-là. Il y a, dès 1881, un service médical et pharmaceutique. C'est important de le souligner. Et en 1894, au décès d'Alfred Solvay, on crée un fonds éponyme, le fonds Alfred Solvay, qui est finalement un fonds qui permettra d'alimenter un secours et une assistance sociale pour des ouvriers dans le besoin. C'est finalement un filet de sécurité qui est très important et qui va être alimenté par des fonds privés. Donc on se rend bien compte là qu'il y a une vision sociale qu'on a eu peut-être tendance à exagérer à certains égards, mais qui est réelle, qui est très très importante, peut-être pas précoce encore une fois. Solvay n'est pas le premier dans le monde, ni à certains égards en Belgique, mais elle va avoir tendance à essayer de prendre les meilleures réalisations sociales et à les faire converger. En tout cas, c'est l'idée et l'image qu'elle va donner pendant pas mal de temps, à un point tel que, très important, date fondamentale, je crois, à retenir, c'est 1908, la journée des 8 heures. La journée des 8 heures, donc bien avant la loi Wauters de 1920, la loi Wauters qui institutionnalise la loi des 8 heures en Belgique, et bien en 1908, Couillet est l'entreprise qui met en place ces journées de 8 heures, mais pour les ouvriers dit en pause, c'est-à-dire qu'on va tester les 3 fois 8 heures, le fameux shift des 3 fois 8 pour une production continue et voir finalement si ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs une expérience qui avait été tentée, accrochez-vous, en Ukraine pour la première fois, dans une des usines du groupe, et on se rend compte là aussi, tiens, finalement, on va faire la même chose à Couillet, et ça fonctionne. On a une très bonne production, une excellente productivité, et le directeur en est tout à fait satisfait, et il va faire comprendre au gérant, qui est l'état-major finalement à direction de Solvay, que cette journée des 8 heures fonctionne très très bien, et il ne fallait pas du tout être récalcitrant. En 1913, un an avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, eh bien, on a une semaine de congés payés avec double salaire, ce qui est un petit peu réminiscent de ce que fera le Front populaire dans les années 30 en France. Eh bien, on le fait 23 ans plus tôt à l'usine de Couillet. Alors, j'insiste, Solvay n'est pas le premier sur le plan social, mais va s'inspirer de ce que font les autres. Mais il y a, je dirais, une face un petit peu... Il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a un paternalisme très fort, très évident, une paix sociale qui est voulue, mais ça signifie qu'on ne veut pas, chez Solvay, qu'il y ait des syndicats étrangers à l'usine. Alors ça, je peux vous dire que dans les archives, on l'a constaté à plusieurs reprises, Nicolas et moi, il y a vraiment, la direction veille à ce que les étrangers, les syndicats extérieurs à l'usine soient vraiment en dehors de l'usine et préfèrent s'entendre directement avec ses ouvriers, avec ses membres du personnel, plutôt que d'avoir une sorte de systématisation de syndicats politiques, comme on les appelle. Ça, clairement, Solvay est tout à fait réticent à mettre en place un dialogue avec des syndicats dits politiques, en clair, des syndicats de gauche, évidemment. Donc la paix sociale est assurée vis-à-vis de ce paternalisme, avec quand même une stabilité du personnel, un contrôle strict. Alors, il y a en effet des initiatives similaires qui sont menées à Marcinelle, à Bois-du-Luc, au Grand Ornu. On connaît évidemment ces grandes réalisations sociales. Et encore une fois, l'objectif de Solvay est de capter toutes ces expériences. Aussi, construction de logements ouvriers, c'est peut-être important de souligner, pas forcément pour Couillet, mais surtout pour les usines qui sont bâties, on va dire, plus ou moins dans la cambrousse, parce que quand vous regardez la mise en place des usines, notamment à Dombasle, il n'y avait pas grand-chose, même à Rosignano en Italie, pas grand-chose. Et là, on va s'inspirer du modèle paternaliste de logement social très important, notamment en Lorraine, pour essayer d'être à la pointe à ce niveau-là. Une date importante, et puis j'arrête avec mes dates et mes étapes, mais c'est quand même essentiel. En 1938, l'entreprise fête son 75e anniversaire, et à l'occasion de son 75e anniversaire, souvent Solvay va fonctionner par commémoration et faire en sorte qu'il y ait des grandes réalisations, eh bien, on va créer l'amicale des ouvriers, et l'amicale Solvay sera construite en 1937 et sera active dès 1939. L'objectif est de mettre en place une politique de loisirs, de détente, de sport notamment. Il y a une grande piscine qui est construite, dont vous connaissez sans doute la postérité. Et c'est en 1937, donc peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, qu'on la met en place. Donc clairement, l'idée de cette politique sociale est de mettre en place un esprit de maison qui se veut un esprit où on va être loyal et qui permet... en récompense, pas mal d'innovations sociales et une certaine stabilité sociale, très clairement. La période de guerre. Alors, on parle beaucoup des guerres d'habitude, donc on ne va pas vous assommer avec les guerres, mais quand même, on a voulu, dans cet exposé, vous expliquer que si l'on parle souvent à propos de la Seconde Guerre mondiale, de cette fameuse politique de continuité. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait simplement que l'establishment industriel belge, durant la Seconde Guerre mondiale, essaie de s'organiser avec les occupants allemands pour dire qu'ils vont essayer de garder l'appareil de production, eh bien, on se rend compte que cette politique de continuité, par rapport à Couillet, eh bien, est de mise aussi durant la Première Guerre mondiale. Peut-être un scoop pour certains, mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression que la Première Guerre mondiale, c'est vrai, c'est le chaos, beaucoup de réfugiés, l'appareil industriel est souvent démantelé, détruit, et ce sera le cas dans une grande partie des usines de la région, mais à Couillet, les affaires tournent. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie les affaires tournent? C'est clair que la production de soude va être limitée, mais notamment pour, je cite, des raisons d'hygiène publique, eh bien, l'occupant allemand va insister pour que, notamment, il y ait une production limitée, mais continue de soude, et même de bicarbonate de soude. On va voir, durant le temps de la guerre, 3-4 ans, on va dire, active, plus de 2000 tonnes de bicarbonate de soude. C'est pas grand-chose, hein, en 4 ans. Mais voilà, Couillet va fabriquer du bicarbonate de soude, notamment, voilà, pour des raisons de salubrité. Et elle va poursuivre aussi sa production de soude. On va atteindre les 20-25 000 tonnes, c'est-à-dire que c'est en dessous, c'est environ à 60% des capacités de 1905-1910, mais c'est pas rien, parce que 20-25 000 tonnes par an, ça montre que l'usine fonctionne. Et ceci permet d'expliquer aussi qu'après, juste après la Première Guerre mondiale, il y aura une tentative, évidemment, de moderniser l'appareil, mais en fait, l'appareil industriel à Couillet n'a pas été détruit du côté de Solvay. Et donc, il y a eu pas mal de tractations pour voir ce qu'on pouvait moderniser, mais finalement, l'usine a fonctionné, contrairement à l'usine de Jemep. À Jemep, l'usine n'a pas fonctionné durant la Première Guerre mondiale, pour une raison bien simple, c'est que les ouvriers ont caché les cellules de mercure, et on n'a jamais découvert du côté allemand, les occupants allemands n'ont jamais découvert les cellules de mercure, et donc on n'a pas pu mettre en place une politique de production via l'électrolyse. Du côté de Couillet, c'était donc différent, et évidemment, ça a donné lieu, comme vous pouvez vous y attendre, à quelques interrogations bien légitimes dans les années 18-19. Donc juste après la Première Guerre mondiale, certains patriotes ont contesté le fait que l'usine de Couillet fonctionnait alors que l'occupant allemand était là. Et il y a eu, non pas un procès, mais une instruction qui était menée ici, dans le district de Charleroi, pour voir si finalement il y a eu peut-être des tentatives de collaboration avant la lettre. Il faut savoir que ces questions de collaboration étaient très sérieuses durant la Première Guerre mondiale également, encore plus peut-être, parce que l'effort patriotique était encore plus unanime et il n'y avait pas de ligne directrice comme durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, de manière très intelligente, il faut le dire, le directeur qui s'appelait Bourrier, René Bourrier à l'époque durant la Première Guerre mondiale, avait demandé à l'époque à Ernest Solvay lui-même, la conduite à suivre. Et peut-être que vous le savez, mais Ernest Solvay était, lui, un des grands artisans du Comité national de secours et d'alimentation, c'est-à-dire quand même une grande opération humanitaire qui a été menée avec l'aval plus ou moins tacite des occupants, mais surtout dans le but d'acheminer du secours et des vivres avec notamment les Américains et beaucoup d'autres. Et donc Ernest Solvay était vu en grande partie comme quelqu'un qui était surtout un grand patriote, qui n'avait aucune envie de montrer qu'il allait profiter de la guerre. Et Ernest Solvay lui a proposé à Bourrier de mettre en place une production limitée de soude, mais que dès le début, il y ait le concours et l'appui quasiment moral de toute une série de grands acteurs de la région. Et de manière intéressante, on voit notamment Paul Pasteur, absolument lui-même, voilà, on est à l'Université du Travail, pas pour rien, eh bien, cautionne la production de soude, et on verra que tous ces papiers, toutes ces attestations, si vous voulez, vont venir alimenter le rapport d'instruction du juge d'instruction de Charleroi, et en fait, finalement, l'affaire, assez rapidement, ne va même pas être montée en procès. À l'inverse d'une autre affaire, qui aura lieu à Avray, du côté de Avray, pas loin de Mons, et c'est la fameuse entreprise Semet Solvay, qui est une entreprise indépendante depuis 1912, mais on retrouve quand même pas mal de dirigeants de Semet Solvay qui sont les mêmes dirigeants que Solvay quand même, clairement, dans le conseil d'administration, évidemment. Eh bien, du côté de Semet Solvay, l'instruction sera suffisante pour mener un procès parce qu'en effet, on a été un peu plus loin dans la production et il y a eu des détournements de production pour l'occupant. Et là, ça a été tout un souci pour que l'image de Solvay ne soit pas ternie, évidemment. Vous voyez, parce que Solvay, en 1918, Ernest Solvay, il est ministre d'État, il est associé à ce grand secours bienfaiteur qu'on lui connaît. Et donc, cet épisode de Sommet Solvay du côté de Havré fait un peu tâche, notamment avec le procès Copé hein, pour collaboration avec l'ennemi, eh bien, du côté de Sommet Solvay, il y aura un non-lieu. Du côté de Copé aussi, finalement, il y aura un non-lieu, mais l'histoire va ressurgir à plusieurs reprises pour montrer que c'est une histoire douloureuse et difficile. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a, à Couillet, une double politique de continuité durant les guerres. J'entends par là que l'appareil de production a fonctionné aussi bien pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ceci explique aussi pourquoi, durant l'entre-deux-guerres, les années 20 et 30, eh bien, il y a un appareil de production qui est là, qui existe, mais qui commence à devenir un peu plus vétuste et qui nécessite justement un réinvestissement. Et je vais passer la parole maintenant à Nicolas pour montrer que tout le challenge, toute la grande difficulté des dirigeants Solvay, de savoir que va-t-on faire de l'usine de Couillet après la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce que clairement on la situe au centre de la stratégie industrielle ou au contraire, on va la mettre sur une voie de garage ? Vous allez voir que la réponse n'est pas extrêmement claire.
Moi, je crois.
Alors effectivement, on va essayer dans une certaine mesure de ne faire ni l'un ni l'autre. Simplement, les conditions dans lesquelles Couillet va continuer à exercer sont délicates. Pourquoi ? Parce que cette usine qui reste fondamentalement monoproduit, axée sur la production traditionnelle historique de Solvay, ne sera plus tellement en phase avec les nouveaux secteurs qui vont émerger après la Seconde Guerre mondiale. Alors, en termes de diversification, il y a toujours eu des débats très intenses au sein de la gérance de Solvay. Les gérants de la deuxième, de la troisième génération considéraient, en tout cas dans leur majorité, qu'il fallait rester fidèle au père fondateur qui voulait focaliser l'activité sur la soude et ses dérivés. D'autres pensaient qu'il était temps de se diversifier, mais ce n'a pas été fait pendant l'entre-deux-guerres. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus le choix. L'industrie chimique a fortement évolué, de nouveaux produits sont apparus. Il faut se diversifier, il faut trouver de nouvelles sources de croissance. Donc Solvay va mener un intense programme de diversification. Et quelles seront les pistes de diversification ? En fait, ce seront les productions qui sont plutôt du ressort de GEMEP, à savoir les dérivés de l'électrolyse. Le chlore, qui va permettre d'entrer dans les matières plastiques, le PVC, hein, qui est un plastique bien connu, dont on fait les châssis de fenêtres ou les tuyaux, qui utilise beaucoup de chlore. Donc ça va être un débouché assez naturel pour Solvay. Une autre grande voie de diversification, ça va être le peroxyde d'hydrogène, l'hydrogène étant aussi produit dans ces électrolyses. Le peroxyde d'hydrogène qu'on appelle aussi l'eau oxygénée, hein, qui est un produit fort utilisé dans la détergence. Et donc c'est plutôt ici dans la région, à GEMEP, que va se porter tout cet effort de recherche, d'innovation vers de nouveaux produits. En collaboration aussi avec le siège de la recherche qui va être inaugurée du côté de Bruxelles, à Neder-Overijmbeek, dans les années 50. Ce site d'NOH, comme on l'appelle, est aujourd'hui le siège central de l'entreprise. Et donc Couillet va rester un petit peu à l'écart de tout ce phénomène de modernisation. Pourtant, dans l'esprit des dirigeants de Solvay, c'est très clair, cette usine a un caractère particulier, c'est aussi un symbole. Et donc on va continuer à investir dedans. On va lui attribuer des productions comme le chlorure de calcium, qui est un sel bien connu pendant nos hivers rigoureux, puisque c'est le sel de déneigement. C'est aussi un sel qui est utilisé dans la déshumidification, dans toute une série d'applications. Et puis la soude, qui malgré tout va passer à 100 000 tonnes en 1950 et 200 000 tonnes en 1960. Donc on continue à croire dans cette usine de Couillet qui est fondamentalement tournée vers le marché belge. Plus de 80% de la production de Couillet est utilisée en Belgique, en particulier dans la région, hein, mais la région en général ici de Charleroi, qui est juste à côté du Borinage, connaît des difficultés. Donc la demande aussi diminue dans la région. Alors voilà, le Couillet est un petit peu, disons, assis entre deux chaises. Et puis une deuxième contrainte fondamentale, c'est que cette usine, depuis les origines, est plutôt de taille modeste. Pourquoi est-ce que Solvay n'a pas plus investi ? Mais simplement, je vous l'ai dit au départ, parce que elle n'est pas à proximité d'une source de sel. Or, dans les coûts de fonctionnement d'une soudière traditionnelle, la question du sel, de l'approvisionnement, est fondamentale. Et donc, finalement, depuis le tout départ, on aurait pu se dire que Couillet était finalement destiné un jour à disparaître, puisqu'elle n'avait pas cet avantage compétitif qu'avaient toutes ces usines sœurs. Alors, je vous l'ai dit, Couillet était surtout orienté vers le marché belge, et puis à partir des années 60, on commence à parler de marché unique européen. On a les frontières qui s'abaissent, la libre circulation des marchandises. On a une concurrence qui devient plus effrénée avec tous les pays d'Europe. Et puis encore un peu plus tard, dans les années 80, c'est plutôt une concurrence américaine qui se fait très importante, puisque aux États-Unis, on commence à exploiter de manière très massive la soude naturelle. Que l'on produit non plus de manière synthétique par le procédé Solvay, mais dans des grands gisements au centre des États-Unis. Et grâce à la politique, ou plutôt à cause de la politique européenne d'abaissement des barrières douanières, toute cette soude américaine va arriver en masse sur le marché européen. Et puis, de l'autre côté, une concurrence venant de l'Est également, tous les pays de l'Est qui commencent à produire en masse et qui ont accès au marché de l'Ouest. Donc, une situation à la fois interne à l'usine, qui est difficile, et une situation surtout externe. Le contexte international est assez délicat. Alors, c'est un sujet récurrent de préoccupation. Un autre problème, finalement, en termes de gestion, c'est le personnel qui est très nombreux ici à Charleroi. Il y a plus de 1100 personnes qui travaillent dans l'usine dans les années 50. Et de manière fidèle à la politique de l'entreprise, on ne peut pas licencier. Il est tout simplement inimaginable de licencier des travailleurs Solvay. Donc on va faire des efforts de compression du personnel via des départs naturels, via des replacements en interne, mais ça se fera évidemment de manière assez lente. Et donc la question de la rentabilité se pose en permanence pour cette usine de Couillet. Et tous ces éléments réunis font qu'on va arriver évidemment dans les années 90 à une fermeture. Alors la question est délicate. Solvay dans les années 80 commence pour la première fois de son histoire à fermer des petites usines dans le reste de l'Europe, en Autriche, en Suisse. Et puis se pose la question de Couillet. Est-ce qu'on va passer le cap de fermer cette usine tellement symbolique où est né le procédé Solvay? Et le tournant, finalement, ça va être la crise mondiale de 1993. Hein, c'est une récession, une croissance négative de l'économie qui touche l'ensemble des pays, hein, après la guerre d'Irak. Et finalement, cette crise va servir d'accélérateur, mais aussi quelque part de prétexte et de justificatif à la fermeture de Couillet. Les résultats du groupe, en général, sont pas très bons cette année-là. Et donc, c'est aussi une manière de justifier la fermeture de la soudière de Couillet. Alors, au moment de la fermeture, il reste 360 salariés. Il y a 270 qui seront pour lesquels des solutions seront trouvées. Donc, la tradition sociale de Solvay continue à jouer dans cette fermeture. Et puis, il y a la composante émotionnelle, hein, qui est très forte. Puisque le CEO, le patron qui ferme l'usine de Couillet est Daniel Janssen, qui est de la cinquième génération en descendance directe d'Ernest Solvay. Et au sein de l'usine de Couillet, on retrouve des ouvriers qui sont là aussi depuis cinq générations. Et donc l'aspect purement émotionnel est assez difficile à gérer. On a évidemment des contestations sociales très fortes et on accuse la direction de Solvay évidemment d'un geste dramatique et d'un coup de poignard, mais enfin la décision doit être prise. Alors le site continue à vivre un petit peu quelques années, pendant 3-4 ans. On essaye de relancer quelques productions secondaires et puis l'usine est définitivement fermée en 1998. C'est vraiment une page industrielle qui se tourne aussi pour Charleroi, hein. À l'époque, on a beaucoup d'usines dans d'autres secteurs qui ferment, et donc cette fermeture a un retentissement énorme. Il faut aussi dire que Solvay est toujours présent, est toujours leader mondial dans le carbonate de soude, mais ça ne représente plus qu'une activité parmi 15 aujourd'hui, 15 autres, totalement différentes de cette activité historique. Alors, une fois qu'on ferme, il faut gérer l'après, il faut gérer le processus de la transition, à la fois au niveau réhabilitation, à la fois au niveau image, etc. Et donc je vais encore une fois céder la parole pour terminer sur ce sujet à Kenneth.
Oui, merci. Il est clair que en mars 1993, une nouvelle intervient, une actualité, comme quoi, eh bien, il y a un accord qui est prévu entre finalement Daniel Janssen lui-même et le recteur de l'époque de l'Université libre de Bruxelles, Hervé Asquin, pour faire de Paranville, eh bien, un campus tout à fait nouveau, high-tech, scientifique. Et il est clair que depuis plusieurs années, Hervé Asquin, lui-même originaire de la région, eh bien, projetait d'ancrer davantage ce qu'il appelait le pôle scientifique et technologique de l'ULB à Charleroi, dans le Hainaut. Et il explique à cette occasion qu'il passe à la vitesse supérieure. Et deux mois plus tard, on apprend qu'en effet, le site de Couillet ferme. Donc, vous voyez, l'actualité est quand même un petit peu écornée. Toujours est-il que le projet va se poursuivre. Le site de Paranville, eh bien, après de multiples transformations, va devenir notamment le centre de culture scientifique dont Jean Richel a parlé, et va aussi être l'objet de toute une série d'initiatives et d'activités gérées par l'ULB, avec plus ou moins de fortune. On peut penser notamment au malheureux destin de la fameuse piscine, pour laquelle l'ULB, à partir de 1996, signale qu'elle n'a plus forcément le budget pour faire l'entretien traditionnel, et que donc toutes les générations de jeunes carolos qui ont appris à nager dans la piscine-là devront aller apprendre ailleurs. Et donc c'est quand même aussi un coup un peu dur qui est porté à la culture et à ce partenariat entre l'ULB et la ville. Toujours est-il que le site continue par en ville, et il y a évidemment une histoire qui continue ici aussi, puisque apparemment de nouvelles destinées vont avoir lieu entre l'ULB et ce site ici, et par en ville de son côté, eh bien, l'histoire continue. Solvay de son côté, eh bien, continue sous d'autres latitudes. Peut-être arrêter maintenant parce que l'acoustique est un petit peu difficile, si j'ai bien compris. Je vous vois tous opiner du chef pour dire ça suffit. Donc voilà, on a fait le tour, j'espère, sans trop vous ennuyer. L'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas eu finalement de linéarité et qu'il y a, à mon avis, des personnages intéressants qu'il s'agirait de développer un peu plus. Merci beaucoup pour votre attention. Évidemment, s'il vous plaît, vos réactions, vos questions, on est là, on ne bouge pas.
Ici se termine la conférence de l'extension de l'ULB. Kenneth Bertrams et Nicolas Coupin étaient enregistrés le 25 mai 2016. Et leur conférence avait pour thème « Solvay, un homme et une entreprise au cœur de Charleroi ». Avec Ernst Hamburg, Kenneth Bertrams et Nicolas Coupin sont les auteurs du livre de référence sur l'histoire du groupe « Solvay, History of a Multinational Family Firm », Cambridge University Press, 2013.